dois-tu vouloir que je raconte le rêve des chaises? Mais tu sais, c'est pas toujours facile d'entendre le rêve des chaises, non? Non, parce que souvent ça fait bourrasque de voix du dedans qui parlait vite, 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 et je plus savoir qui je suis, et ça débordait de moi par tous les trous. Alors, quand c'est trop, je courais dans le forêt profonde devant mon maison, et je me déshabillais dans un petit clairière que personne vient. Et là, je fais le cri des papillons. Et de partout, nulle part, 4309 papillons, ils se posaient sur mon tête et mon corps tout crabouillé de paroles. Et je sentir comme une petite touche d'aile qui vibre sur mon peau. Et ça silencifie tout mon intérieur. Après, je devenir translucide comme libellule en néon. Et mon œil, tout nettoyé au vitriol, ils voient les choses qui habitent dans les interstices de la réalité.
Merci. Nous venons d'entendre Nathalie Vinot qui a dit un extrait de sa toute nouvelle création intitulée Olga, qui jouait à la CAFE Poésie. C'était la première hier soir et je vous remercie beaucoup d'être là ce matin. C'est joué de nouveau ce soir à 20h30 et ça sera joué aussi le
22 novembre, à la MJC du Pont des Demoiselles à 20h15. Et c'est une soirée de soutien à l'association La Petite, qui est une association avec laquelle je travaille depuis 6-7 ans, voilà, et qui est en difficulté financière en ce moment.
Donc il faut préciser que l'association La Petite s'occupe essentiellement des femmes pour les accompagner dans leur recherche d'emploi, mais aussi pour qui accompagne certaines artistes.
Oui.
Et qui intervient aussi au niveau des journées du matrimoine.
Oui.
Et d'ailleurs, vous, dans le cadre des journées du matrimoine, vous êtes la raconteuse, la personne qui brosse les portraits des quatre dames invitées.
Je suis la guide, voilà. J'ai le grand honneur d'être la guide des journées du matrimoine depuis maintenant 3 ans. On a fait la 3e édition. Donc chaque année, c'est un parcours dans la ville, un parcours féministe pendant les journées du patrimoine.
Matrimoine.
Voilà, donc ce sont les journées du matrimoine.
Oui, je comprends.
Pendant les journées du patrimoine, voilà. Et c'est pour mettre en lumière, en valeur, des femmes exceptionnelles qui ont été liées à l'histoire de la ville aussi, et qui sont souvent méconnues, voilà.
Et donc vous leur donnez une seconde vie, si on peut dire.
Alors oui, c'est
à l'aide d'artistes.
C'est un mouvement donc c'est une proposition qui avait été lancée par une association féministe, Oser le féminisme, et puis qui a été reprise à Toulouse avec le collectif HF, qui est pour l'égalité homme-femme dans le milieu artistique, et l'association La Petite avec laquelle je travaille, qui est une association féministe qui effectivement s'occupe qui propose des ateliers pour des femmes en recherche d'emploi ou en difficulté, dans lesquelles j'interviens avec Lynn Souriant aussi. On est deux, un binôme, pour leur faire travailler sur le corps et la voix et retrouver un espace intérieur pour reprendre l'espace extérieur, on va dire. Et puis un des gros volets du travail de La Petite aussi, c'est de mettre en lumière des femmes, et notamment dans la musique électronique. Et elles ont une page Facebook qui s'appelle Girls Don't Cry, qui met en valeur tous les jours des femmes artistes. Voilà. Donc
tout ça se tient.
Tout ça est très très féministe. En
voilà. Donc là, c'est un second solo que vous présentez à la CAFE Poésie, puisque vous aviez joué il y a quelques années, je ne me souviens plus.
Alors, j'avais fait un premier solo, il y a longtemps, qui s'appelait Héliotropolka, et avec un personnage étrange qui s'appelle Abigail Vésicule. Et j'étais déjà en travail avec Christian Brasier, qui est mon metteur en scène, un très grand directeur d'acteurs, voilà. Qui travaille aussi sur ce nouveau solo.
Olga. Olga, c'est un clin d'œil à Tchekhov ou pas? Ou non?
Ah, j'ai pas du tout pensé, non.
D'accord. Non, 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 j'ai pensé ça ce matin.
Non, pas du tout.
Puisque bon, il y a une ambiance slave très prononcée, avec toute l'exubérance que cela suppose, et puis par certains aussi des petits attributs que vous avez pour accompagner votre spectacle, qui ont leur sens, dont vous en parlerez plus tard. Et puis le pays dont vous parlez, ça s'appelle la Mortavie, c'est ça?
Oui, elle vient de la Mortavie. Voilà, c'est un petit peu à gauche de l'Ukraine et c'est tout près à Voldoy Sauvage de mon petit Mongolie intérieur. C'est la Mordavie. Mais il fait très froid en Mordavie, très très froid. Oui, moi j'ai l'Est qui me coule dans les veines depuis longtemps. Voilà, j'ai un grand-père qui était juif polonais. Mm-hmm. Et voilà, donc il y a quelque chose de ça à chaque fois que j'improvisais vocalement. Mm-hmm. C'est l'Est qui remontait alors que je n'ai jamais vécu là-bas, je n'ai jamais entendu cette langue. Mm-hmm. C'est bizarre comment ça se transmet.
Oui, mais oui, c'est dans... Ouais.
C'est dans le creux, c'est dans les creux, c'est dans l'absence en fait.
Dans les interstices, comme vous dites.
C'est dans les interstices.
Puisque vous employez souvent ce mot dans le... Et donc pour vous, écrire apparemment, c'est un besoin, une nécessité, vous aimez les mots. D'ailleurs, quand certains mots, puisque bon, là, vous avez dit aussi hier soir, donc ce spectacle était un hommage à votre grand-père, mais c'est une dame hongroise que vous aviez connue.
Ah, ça c'était Elisabeth Bartel, c'était une vieille dame qui habitait dans ma cité, et qui était une amie de mes parents, et qui était une toute petite dame avec un fume-cigarette et les cheveux courts. Et qui faisait de la poterie. Et elle venait de Hongrie et elle parlait avec cet accent comme ça. Et c'était une femme que j'aimais beaucoup parce que elle me considérait comme une vraie personne. Donc c'était une amie. Elle avait, je ne sais pas, à l'époque elle devait avoir 50, 60 ans, moi j'en avais 10. Et je pouvais passer la voir, aller boire le thé et on parlait comme deux vraies personnes. Elle ne me considérait pas comme une enfant. Et j'adorais son accent. C'est quelqu'un qui a été fort et qui a marqué effectivement mon enfance. Et cet accent, c'était déjà un petit peu de l'Est qui traînait déjà quelque part. Ouais.
D'accord. Donc, je reviens à l'écriture, parce que oui, quand le personnage parle des mots, et des mots, donc on comprend que c'est quelqu'un qui est slave d'origine, enfin, je parle du personnage, dit certains mots français, et vraiment les goutte vraiment jusqu'à... Et cette importance de la langue française, et j'ai pensé, en vous voyant hier soir, à tous ces Russes qui émettent la langue française. Et récemment, j'ai vu une interview de Robert Badinter, la semaine dernière, qui a écrit un livre à propos de sa grand-mère, qui venait de Bessarabie, et donc aussi qui avait choisi la France aussi pour les mots, enfin pour le, et aussi pour la culture française. Et donc, parce que vous les goûtez, ces mots, enfin vraiment, vous les déployez avec toutes leurs ailes, si on peut dire, enfin c'est assez extraordinaire. Donc pour vous, les mots, c'est vraiment, ont une importance capitale. Et c'est vrai que les mots ont un sens aussi politique, enfin, poétique et politique.
Poétique et politique, oui. Mais oui, Olga, elle a une relation très, très charnelle aux mots. Au langage.
Mais tout est charnel d'ailleurs, ce spectacle.
Oui. elle est très incarnée dans sa chair, oui. Elle a une relation comme ça aux choses, aux objets, aux mots, aux animaux, à l'espace, à la forêt.
Tout est très sensuel.
Oui, tout est très... Ça se passe dans son corps, tout passe dans son corps. Et après, oui, moi j'adore les mots depuis toujours. J'aime la langue et j'aime la poésie et j'aime la sonorité des mots,
la musique,
la musicalité, bien sûr, et leur double sens, et comment on peut jouer avec
bien sûr,
ça.
Oui. Qu'est-ce qu'on peut leur faire dire, en les triturant, en les faisant danser, enfin.
C'est ça.
Et tout ça. Parce que là, cette écriture, je trouve, s'apparente au conte et à la fable, d'une certaine manière.
Oui.
Parce qu'il y a des choses, au merveilleux aussi. Je pense notamment aux histoires des chaussettes et puis les ours. Bon, ça m'a beaucoup marqué, l'histoire des ours.
Moi, j'ai commencé à lire très, très petite et je suis tombée très très vite dans des contes. Donc la base de ma culture littéraire au départ, c'est les contes, et des contes de partout du monde, et beaucoup de contes slaves avec Baba Yaga la sorcière, avec ces personnages là
et toute cette comme ça démesure, enfin, comme ça
Et ça reste très très prégnant effectivement dans mon écriture. Ça l'était déjà dans le premier solo, parce que il y a quelque chose de très archaïque et cruel aussi. Il y a quelque chose qui paraît doux et enfantin et qui est cruel.
Mais si on creuse un petit peu, voilà. Si on écoute bien, si on lit entre les mots, dans les interstices, comme vous dites, c'est vrai que ça renvoie à des choses...
J'aime bien ça. Et quand j'ai fait la première, parce que là, c'était la première à la maison, ici à Toulouse, mais la première, en fait, réelle, je l'ai fait l'année dernière au domaine de Bessac, un lieu magnifique à Sainte-Gabelle, à côté de Sainte-Gabelle, à Picarou. Et c'était vraiment la première naissance connaissance.
D'accord.
Après, j'ai retravaillé avec mon metteur en scène sur la... Il y a des choses en écriture qui ont changé, et puis on a travaillé beaucoup sur le jeu, en fait. Mais il y avait un monsieur qui avait dit, à cette première, ce jaillissement, qui avait dit, c'est cru éthique, c'est cruel et poétique, et j'aimais bien ce mot-là. Voilà. Et le conte, pour moi, ramène à ça. Et puis après, un de mes livres de chevet qui m'avait pas mal servi aussi pour écrire mon premier solo, c'est Femme qui court avec les loups, de Clarissa Pecola Estes, qui est une ethnologue, qui a beaucoup travaillé sur l'interprétation des contes et comment la figure féminine peut trouver de la force dans les contes. Donc, oui, je dis, Olga, elle se tient à la lisière. Je ne le ferai pas à la radio, ça. Lisière, ça me fait. Mais si tu viens voir le spectacle, je t'expliquerai ce que ça me fait, lisière, parce que c'est un mot très beau, tu vois. Mais je ne te le raconte pas. Et qu'elle se tient à la lisière de la forêt fantasmagorique. Voilà. La forêt, elle habite au bord de la forêt. Et dans la forêt, il y a effectivement des ours, il y a des renards, il y a des arbres. Mais il y a aussi des choses enfouies, souterraines, sous la terre, voilà, qui ont à voir avec l'histoire réelle, concrète, et plus la fantasmagorie.
Donc, cette fable, vous conviez plusieurs personnages, donc il y a une très très vieille dame, enfin le spectacle s'ouvre sur ça, c'est bien ça, c'est une très vieille dame.
Oui, Madame Straub.
Voilà, qui est très alerte encore, et qui est, comment dire, qui a la langue bien pendue, si on peut dire.
Elle est très en colère, elle est très en colère sur le monde,
Sur comment va le monde, quoi.
Sur comment ne va pas le monde,
oui.
Oui, elle est en colère, et... voilà. Et du coup, elle fait apparaître Olga. Ou Olga apparaît, on ne sait pas. Est-ce qu'elle l'a fait apparaître?
Donc, retour, enfin, dans le monde de l'enfance, quoi.
Alors, Olga, elle est. Elle...
Il y a des souvenirs, notamment de quand elle tétait le sein de.
Oui. Alors, Olga, elle vient de la Mortavie. Elle est dans un univers très fantasmagorique et concret, qui est la Mortavie. Et elle parle de son père, Ilitch, de sa mère, Vladine. Il y a sa tante, Yulia, qui a fait de la poésie. Il y a sa grand-mère. Il y a.
Autant de portes sur l'imaginaire, et le fantastique, le fantasmagorique.
C'est comme des poupées russes, en fait.
Oui.
On rentre, et puis on ouvre, et puis
il y en a une à l'intérieur.
Olga, elle est très, très en arborescence.
Elle est très volubile.
Et très en arborescence. Oui. Ça part dans tous les sens. Et comme elle est sensible aux mots, elle peut s'arrêter
bien
sur le mot.
Et le développer.
Et le dévorer, manger.
D'accord.
Voilà.
Il y a aussi un petit garçon qui est convié aussi.
Il y a Yvan, Yvan, c'est un personnage très particulier. Yvan, c'était le voisin de Olga quand elle était petite. C'est la première voix qu'elle a entendue quand elle s'est assise sur une chaise et qu'elle a appris à écouter le rêve des chaises.
Parce que les chaises ont une importance
En fait, sur scène, il y a une chaise. Et cette chaise,
c'est
vraiment un personnage. Oui. C'est un personnage à part entière, et parce que Olga, elle entend le rêve des chaises. Donc, quand elle s'assoit sur une chaise, elle entend des choses.
Il y a des choses,
voilà.
Bon, comme ça, un monde...
Et c'est un monde très bizarre. C'est très bizarre, des fois. Et il y a beaucoup d'exubérance, ça part dans tous les sens.
Oui, je parlais de merveilleux, quoi, ce qu'on retrouve dans les contes, quoi, des choses, ça c'est ça. Vous nous amenez en voyage d'une certaine manière, dans différents voyages, en fonction de notre sensibilité,
mais ce que je voulais aussi, c'est que ce soit rattaché à des choses de maintenant, concrètes.
Oui, bien sûr, vous utilisez ce procédé-là pour dire des choses qui, pour vous... ont une importance, une grande importance, quoi. Et aussi peut-être une forme de colère aussi, tout comme Madame
Straub.
Voilà, Mais c'est dévié, quoi, comme ça, c'est...
Je ne sais pas écrire frontalement, pour moi, c'est très compliqué, la notion du théâtre politique. Je trouve ça très difficile de rester dans une forme théâtrale et de ne pas asséner
être donneuse de leçons.
Et puis des choses avec lesquelles on est d'accord. Donc, c'est comment parler de choses effectivement qui nous touchent. De,
comment, quel procédé utiliser pour...
comment on peut détourner. Mmh. Et la poésie, pour ça, mmh. c'est très... Mmh. C'est un outil merveilleux. Oui. Pour écrire, sans écrire. Et c'est en creux aussi. Mmh. Et puis... je crois beaucoup, hein, parce que on me dit là, ça dure une heure et demie. Donc il y a beau, ça parle beaucoup.
Ah oui, il y a beaucoup de choses.
Il y a beaucoup de choses et on me dit c'est très dense.
Ah oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de thématiques.
Oui, mais parce qu'il y a pas
suggéré.
Il y a pas de thématique en fait. C'est pas, c'est comme la vie.
Oui. Mais en fait, il y a quand même des choses qui ressortent, oui, de grandes lignes.
Il y a des grandes lignes. Il y a des grandes lignes. Il y a les femmes. Ouais. Quand même, ça, ah, je oui. peux pas m'en empêcher.
Ouais. Et les femmes. Il y a l'érotisme.
Il y a la relation à la sexualité. Et ça, je ne peux pas m'en empêcher.
Il y a la nature aussi.
Il y a la nature.
Qu'est-ce qu'on fait de la nature ? Et puis après, quelque chose de plus
sombre,
sociétal, dans les tuyaux, là, quelque chose, cette, hein, comme, hein,
dans les canalisations.
Cette bête immonde qui va là. Quoi,
de ce qui remonte, ouais, un petit peu partout en ce,
oui,
moment.
Oui,
et
oui.
Que, vraiment, moi, je pensais être une génération qui ne verrait jamais ça remonter.
Oui. Oui, moi aussi.
On pensait tous.
Oui. Plus jamais ça.
Plus,
oui,
jamais,
et
ça.
Et en fait, là...
Et en fait, là, c'est assez atterrant. Mm-hmm. Voilà. Et là,
et notamment, pas que, mais malheureusement, dans certains pays aussi, de cette...
voilà, l'Est,
de cette contrée.
Bien sûr, bien sûr. Bien
parce, bon, la Hongrie, enfin, voilà.
Et la Hongrie, c'est terrible.
Pour pas... Mais voilà, mais...
Oui.
Et donc, c'est dit aussi de façon, comme ça, enfin, très... très imagé, enfin, très... il y a toujours comme ça ce va-et-vient aussi que vous faites entre des choses, comment dirais-je, plus techniques, quand vous parlez de tuyaux, et aussi que vous rattachez à ce... Parce que dans notre corps aussi, nous avons des tuyaux, c'est entre guillemets, quoi. Enfin, il y a tout ça pour faire passer, pour justement dire ce qui vous importe, quoi.
Oui.
Sous le truc de la fantaisie, si on peut dire, de l'exubérance aussi, parce que c'est encore, c'est vraiment l'exubérance slave, quoi. C'est, et même au niveau des images, quoi, je veux dire, ça... Même si vous prononciez pas vous le nommez souvent, ce pays, la mort à vie, c'est un jeu de mots, cette, oui, voilà. Mais oui, en vous écoutant, même si vous le prononciez pas, les spectateurs et spectatrices voient bien qu'ils ne sont ni en Espagne ni en Italie, oui, quoi, ni en Finlande, quoi. On voit, ça se dessine, quoi, par, oui, le choix des mots, l'atmosphère, notamment ces grandes forêts, enfin, comme ça, ces ours là qui sont nombreux.
Oui. Oui, c'est. Je crois beaucoup, ça c'était déjà dans mon premier solo, à une écriture de l'imprégnation. Mm. C'est-à-dire qu'il y a une écriture qui. J'aimerais qu'il passe par le corps.
Mmh.
Et,
oui,
et des fois, sur mon premier solo, il y avait des gens qui m'appelaient quelques jours après, qui me disaient oh, j'ai compris ça dans cette scène, alors que ce n'était pas flagrant.
Mmh.
J'aime bien que l'écriture, elle passe comme ça, comme dans les nervures du bois, dans les chaises, qu'elle descende effectivement dans les tuyaux, et que quelque chose émerge de plus organique, de l'ordre d'une compréhension organique des choses. Parce que
oui, c'est l'origine aussi,
et puis parce
l'organicité.
Que ça, parce que ça touche à parce que ça touche à ça quand on parle du sombre, voilà, de ce qui se passe.
Des résurgences.
On ne les nomme pas, mais voilà.
Oui, mais enfin, tout le monde comprend de quoi il s'agit.
On se dit. C'est quoi cette part de l'être humain qui revient toujours, qui ne peut pas s'empêcher de revenir? C'est quoi cette profonde violence,
haine, oui,
cette profonde haine qui ne peut pas disparaître? Voilà, bon, j'ai pas de réponse, je pense que personne n'en a, mais et ça a à voir avec quelque chose d'organique, je pense.
Oui.
Voilà. Donc j'essaie de parler de ça.
Quelque chose d'archaïque.
Oui. Et puis je voulais la scène de cette vieille dame, Madame Straub, qui apparaît au début du spectacle et qui revient à la fin. Et cette scène qui était très importante pour moi, qui se passe dans la forêt, qui est de l'ordre de la résurgence, du souvenir, de la mémoire, justement, de qu'est-ce que ces choses qui remontent de la terre, qui sortent de la terre.
Comme si la nature était mémoire.
Mais c'est ce qui s'est passé. Oui. Il y a eu tellement de cadavres qui ont été enterrés dans les forêts.
Oui.
Il y a eu toute une période où les os ressortaient, véritablement, dans tous les sens du terme. Et je voulais écrire une scène où il n'y aurait que des objets et des symboles. Je ne voulais pas qu'il y ait d'être humain. Qu'elle.
Oui.
C'était ça mon défi d'écriture.
Votre fil, oui.
Voilà. Donc... Il y a des éléments qui apparaissent, qui sont des cheveux, les dents, du barbelé, des chiens.
Oui, ça renvoie à des images bien... Oui.
Voilà, des bureaux.
À une histoire pas si lointaine que ça.
Malheureusement pas
si lointaine. Et qui malheureusement, bon, ressurgit, quoi. C'est ça, sous différentes formes, mais bon, c'est ça qui est terrible, quoi.
Et j'avais ce personnage qui était apparu, ce personnage est là depuis 5 ans.
D'accord.
Olga, je l'ai fait pour des cabarets clowns qui se passent au hangar. Mm-hmm. Et j'ai fait une Madame Loyale.
D'accord.
Donc elle présentait d'autres numéros. Mm-hmm. Elle était très légère. Il y avait déjà l'histoire de la mer, mm-hmm. des ours, mm-hmm. Des fourmis, tout ça. Voilà, elle avait ses petites anecdotes, et puis elle est restée dans des cartons pendant un moment. Mmh. Je l'ai ressortie une ou deux fois des cabarets.
Vous avez eu qu'autre chose entre temps.
Après, j'ai travaillé avec la compagnie Groenland Paradise, oui. Avec Nathalie Well.
Là, vous avez écrit les textes aussi.
J'ai fait une adaptation.
Papier-ciseaux.
Papier-ciseaux, forêt oiseau, qui est un spectacle jeune.
Vous continuez à jouer toujours ?
Oui, on a fêté notre 100e. Ouais. Et qu'on joue beaucoup. Et là, on est en création sur un nouveau spectacle.
À propos de la Syrie.
Oui. Sur une adaptation d'un roman d'un auteur syrien qui s'appelle Rafik Chami. Mmh. C'est une poignée d'étoiles et la création se fera le 21 décembre au Théâtre Jules Julien.
D'accord.
Donc oui, je suis partie en travail avec Nathalie, on a beaucoup travaillé. Et puis Olga, elle revenait. Je l'ai ressortie pour un cabaret féministe pour les choraleuses l'année dernière. Mmh. Et je me suis dit, ça faisait un moment que je voulais retravailler. Je me suis dit, là, il faut qu'elle raconte une histoire. Mmh. Voilà. J'avais ce personnage très léger, je voulais parler de cette chose très grave. Donc j'étais dans une espèce de grand écart existentiel sur comment arriver à se faire croiser cette légèreté et cette noirceur. Mmh. J'espère que j'y suis arrivée.
Et revenons aussi sur la thématique féministe, qui est vraiment, vous avez une façon très, comment dire, oui, très imagée d'en parler, mais bon, tout le monde comprend. Et ça, oui, ça, comme vous dites, vous ne pouvez pas vous en empêcher,
moi je suis tombée dedans quand j'étais petite. Hein. J'ai été élevée par une mère féministe qui a travaillé un temps au planning familial. Je fais partie d'une génération où on était les premières à avoir la pilule. L'avortement, pour moi ça a beaucoup de sens.
Oui, il y avait une certaine évolution qui là aussi commence à être menacée.
Mais ça marche avec.
À être grignotée. Oui,
ça marche avec. C'est souvent, hein, c'est famille, patrie, hein, et les femmes à la maison, voilà, ça fait partie de ça. Donc oui, ça remonte, les filles, féminisme, c'est pas un gros mot, c'est vraiment important de continuer à défendre des droits qu'on pensait acquis.
Mais non, qui peuvent très bien...
Et qui peuvent être remis en cause du jour au lendemain.
Mais oui, nous le voyons d'ailleurs tous les jours, hein.
Et puis je conseille à tout le monde qui a des doutes sur le féminisme de regarder la série The Huntsman's Tale, donc La Servante Écarlate, qui est une dystopie sur qu'est-ce qui pourrait arriver si un pouvoir fascisant et évangéliste prenait le pouvoir aux États-Unis. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe notamment pour les femmes. Et ça fait froid dans le dos.
Ah oui, ça j'imagine. Voilà. Oui. C'est vrai qu'il faut vraiment que nous restions sur nos gardes, quoi. C'est plus que jamais, même. Je dirais.
Oui.
C'est vraiment, il faut
pas lâcher.
Ah oui, non, mais là, c'est terrible, quoi, ce retour en arrière.
Mais, heureusement, il reste encore les mots,
la poésie, l'imaginaire.
Et l'amour de la vie, parce qu'Olga, elle est vraiment à cet endroit-là, c'est-à-dire que...
La pulsion de vie, comme je disais tout à l'heure.
La pulsion de vie est plus forte que tout. Oui. Et de toute façon, l'être humain est dans cette ambivalence-là entre la mort et la vie.
Il y a aussi dans votre écriture quelque chose de très pictural aussi, je trouve.
Ah.
Enfin, moi, parce qu'il y a les petits éléments que vous avez sur votre costume qui sont très colorés, donc qui renvoient aussi au monde slave, mais aussi la façon dont vous en parlez, moi je trouve ça très pictural aussi.
Ah. Je ne sais pas quoi dire. Merci.
Donc nous avons évoqué, c'est le féminisme. Et il y a aussi, j'aimerais aussi que vous parliez de l'érotisme, parce que c'est aussi très beau.
Oui, c'est très important.
Mais s'il y a la vie aussi, Eros, Thanatos.
C'est très important, la sexualité.
La pulsion de vie.
Mais c'est pareil, j'avais ces deux thématiques. Je voulais parler aussi d'une sexualité dont on parle peu, qui est une sexualité archaïque, qui est une sexualité sauvage, de laquelle on nous coupe beaucoup. Et donc, j'étais assez fascinée par ces histoires de mythologie qui ont à voir aussi avec les contes, de ces dieux qui se transforment en animaux pour enlever des femmes.
Pour séduire.
Pour séduire. vampires et toute cette animalité-là. Et puis, il y a, avec les ours, j'ai regardé, ça revient beaucoup dans le monde slave, ça mais revient dans les Pyrénées aussi, ce mythe des ours qui a des relations sexuelles avec des femmes, voilà, cette espèce de sauvagerie de la femme qui pourrait s'accoupler avec des gros animaux pleins de poils. Et comme on c'est pareil, on nous vend une sexualité très en plastique, sans poils, sans rien, avec une espèce de peau qui va devenir de plus en plus plastifiée.
Alors oui, que c'est tactile, c'est sensuel, c'est la peau, c'est c'est vivant.
Ça sent. Voilà. Voilà, il y a des odeurs, il y a des sécrétions, il y a de la sauvagerie, il y a de la sauvagerie. Et je voulais parler de ça, c'est important pour moi.
Non mais c'est réussi.
Donc j'avais toutes ces thématiques comme ça et je me disais comment je fais croiser ça. C'est pour ça aussi qu'elle part très en arborescence. Elle choisit tout le temps, tout, Olga. Elle choisit sa vie, elle choisit à chaque moment ce qu'elle raconte, comment elle raconte, les mots qu'elle, qu'elle utilise pour raconter les choses. Et comment elle entretient le feu de la vie envers et contre tout.
Il y a aussi toute une partie, je ne sais pas si on peut dire chorégraphiée, mais enfin où vous bougez d'une certaine manière, notamment quand vous imitez la démarche de l'ours, mais pas que, vous, comme ça sur un espace, bon, puisque ça se passe à la cave, vraiment dans la cave, l'espace, et puis bon, vous utilisez un tout petit périmètre finalement, donc ça c'est quelque chose de construit, mais vous bougez beaucoup, notamment aussi autour de la chaise, enfin vous faites des allers-retours.
Oui, c'est physique, c'est un spectacle, ça ne fait pas que parler, elle bouge.
Vous dansez aussi sur place, si on peut dire.
Oui, je bouge, je peux pas m'empêcher de bouger, je ne peux pas dire un texte sans bouger, ça c'est pas possible. Après, des fois, je bouge trop. Il faut que je me calme un petit peu. Mais ça fait partie du personnage. Et puis, c'était une première très émouvante hier. Il y avait beaucoup de gens que je connaissais dans la salle.
Oui, j'ai vu ça, oui.
Voilà. Donc, ça met dans un état, effectivement, d'ébullition. Mais oui, c'est, comme elle est de toute façon dans cette chose charnelle qui a à voir avec le corps et dont elle parle, ça passe par son corps.
Oui.
Donc son corps est vivant, son corps raconte quelque chose aussi. Et c'est aussi la façon qu'on a travaillé avec Christian aussi de comment... Christian, il est très, très aigu pour ça, très pointu sur comment arriver à donner une ampleur au texte avec le corps, avec la voix, sans que ce soit illustratif. Comment créer un double langage, quelque chose qui se raconte dans le corps et qui se raconte avec les mots et qui percute quelque chose comme ça. Voilà.
Vous parlez pas. Pouvez-vous parler aussi du choix des chants, puisque vous chantez aussi, parce que vous aimez chanter aussi.
Oui.
Et vous ne chantez pas qu'en français.
Oui. C'était mon... J'ai commencé par le chant, en fait, avant le théâtre.
Des petites faiblesses. Vous écriviez les textes à l'époque ?
On écrivait toutes des textes, mais moi, j'en écrivais pas beaucoup. J'étais très inhibée à l'époque sur l'écriture.
D'accord.
Et Christelle, j'adorais l'écriture de Christelle. Christelle Boisanté. Je poussais beaucoup Christelle à écrire. Moi, j'en ai écrit quelques-uns, mais c'était compliqué pour moi, l'écriture. J'avais une espèce de... d'autocensure, parce que la langue française, parce que toute la poésie française, parce que toute la littérature française, c'est compliqué, cette chose-là. C'est fascinant, il y a une espèce de dévotion comme ça, et on se dit, mon Dieu, ce que j'écris, c'est nul, tout ça. Donc, j'ai mis longtemps à me libérer et à m'autoriser à écrire. Et c'était le premier solo, Eliotropolka, qui m'a permis ça. Et puis, pendant 2 ans, là, on avait monté un atelier d'écriture avec des amis.
D'accord.
Où il y a Aurelio Diaz qui est dedans, qui est un poète du Grand Os. Il y a Joël Rénal qui travaille à Ombre Blanche. Oui. Hélène Miguet qui est danseuse. Mathias Miguet, son frère, qui est professeur de philosophie. Marie Frécon qui est photographe. Oui. Crépierre. Voilà. On avait monté un atelier d'écriture. Et donc, on se voyait très régulièrement pour écrire. Et on a tous et toutes des écritures très différentes. Mmh, et oui. D'être confronté comme ça.
C'est là une richesse.
Ça
a ouvert les portes.
Ça a encore ouvert les portes pour
ça
moi.
Ça fait éclater le.
Ça a encore enlevé des inhibitions,
des barrières,
des peurs, des jugements. Et ça m'a permis une grande liberté.
Oui, vous êtes dit donc que chacun, en fait, ou chacune avait sa façon d'écrire, quoi.
Oui.
D'une certaine manière.
Oui, et en même temps, on se fait aussi contaminer par les
bien
autres,
sûr, oui,
imprégner,
oui.
Et du coup, on se permet des choses
bien sûr,
qu'on ne se serait pas permis toute seule, parce qu'il faut écrire de la poésie, gna gna. Voilà. Mmh. Et donc, vous me parliez des chants. Je, voyais, je repars en arborescence.
Oui, oui. Non.
Oui, il y a des improvisations qui sont un petit peu slaves. Il y a un chant tzigane à la fin, que j'aime beaucoup, d'un groupe qui s'appelle Andodrom. Et donc, je fais une fausse traduction, je dis que ça dit quelque chose, mais ça ne dit pas du tout ça. Et puis, j'ai écrit un texte.
Mais c'est très beau ce que ça dit, enfin, ça.
Oui.
C'est, comment dire.
Ouais. Ça parle des Roms, normalement.
Oui. Symboliquement, c'est très beau.
Je trouvais ça beau de finir sur un chant rom aussi, par rapport à tout ce que je raconte. Oui. Mais parce qu'on en parle peu aussi de cette disparition-là. Y a un chant italien qui est l'air des pêcheurs de perles de Bizet. Mon père chante de l'opéra.
D'accord.
Et un jour, il m'a réveillé un matin.
Il est chanteur d'opéra, enfin,
c'est sa passion.
C'est sa passion,
donc,
son violon de basse.
Son métier. Il s'y aimait tard, il était médecin.
D'accord.
Et il s'est mis à commencer à prendre des cours à 42 ans.
Ah ouais, c'est bien, mais ça donne de l'espoir.
Oui, tout
c'est
est
chouette,
possible.
Ça.
Et il chante très bien.
Divinement bien.
Et puis il fait des concerts.
D'accord.
Enfin, voilà, il m'impressionne. Et un jour, il m'a réveillé en mettant les baffles dans le jardin. Et il a mis cet air des pêcheurs de perles de Bizet. Et c'était chanté par un ténor italien des années 50-60 qui s'appelle Beniamino Gigli. Et qui le chante j'ai perdu le mot. Comme un air de balade napolitaine, ça vient plus de l'opéra,
presque
voilà, c'est très beau comment il le chante. Donc voilà, ce chant est apparu. Je cherchais un chant et ce chant est apparu très vite. Je l'aime beaucoup et je le tisse avec où je parle de Vladine, ma mère qui fait des choses bizarres. Voilà.
Oui, dans l'histoire, Vladine, la berceuse, c'est très mouvementé comme berceuse. C'est un chant d'opéra. Enfin, c'est de l'opéra.
C'est ça. C'est cet air de Benjamin. De Bizet. Et puis j'ai écrit la chanson d'Illich, c'est la chanson des chaises. Au début du désastre était la chaise, fondement de tout, la chaise, où tout fondement fond, et ainsi fond, le fond du bout de toi, dans les interstices du bois, le fond de toi, dans les interstices du bois. Je vous en fais un petit extrait, mais voilà, peut-être vous reconnaissez une gnosienne d'Eric Satie. Et j'avais écrit ce texte, je cherchais un air, je cherchais une mélodie, je cherchais. Et en fait, cette gnosienne de Satie, je l'ai dans la tête tout le temps.
Elle vous accompagne.
Tout le temps, je me lève le matin, je la siffle. Donc voilà, donc à un moment donné, elle est venue, je me suis dit, oh, mais ça colle, les mots, ça colle exactement dessus. Donc voilà, je me suis amusée à mettre des mots sur cet air de Satie. Et puis il y a le blues des chaussettes que je chante en anglais, et il y a des improvisations en langage inventé, en gros mots, un peu slave, étrange.
Oui, parce qu'aussi au cours du spectacle, oui, il y a des moments aussi où il y a des, vous faites des bruits, enfin il y a des sonorités qui n'ont pas à voir avec le chant, quoi. Ce sont pas des grognements, mais c'est, je sais pas comment on peut appeler, enfin, c'est une technique spéciale, enfin oui. Au niveau de la gorge, vous faites des...
Oui, des trucs gutturaux un peu.
Oui, voilà, oui.
Ouais, oui. Je ne vais pas le faire à la radio, ça ne va pas passer.
Oui, non, mais je veux dire, c'est comme ça tout à l'heure. Bon, c'est aussi votre...
C'est mon outil, la voix, c'est
voilà,
mon outil.
Voilà, oui, puisque vous étiez chanteuse, oui, forcément, après comédienne, donc forcément, la voix, vous la travaillez.
Oui, et j'aime bien...
Vous l'appropriez, c'est le cas de le dire, et vous essayez d'en montrer toutes les richesses, quoi, tout ce qu'il est possible de faire avec une voix, quoi.
En fait, c'est pour moi, c'est pas, je le pense pas du tout comme ça.
Ah, pardon.
c'est pas un catalogue de ce que je peux faire avec la voix, mais
ah non, j'aime... c'est pas un catalogue, non, mais non. C'est toute possibilité.
Votre... Mais c'est, oui, mais en fait, c'est, j'essaye dans mon écriture de faire que le chant raconte quelque chose, c'est-à-dire que oui. que chaque chant incarne un personnage.
Veuille dire quelque chose.
Veuille dire quelque chose et que ça soit pas juste du chant.
Oui, pour faire joli.
Pour faire joli.
Oui, ça voilà. a un sens. Oui.
Que ça a un sens.
Bien sûr. Oui.
Et du coup, comme c'est des chansons qui sont liées à des personnages, effectivement, je passe par des registres de voix différents et des déplacements vocaux, des endroits différents. Et après. Voilà, pour moi la voix, elle raconte
oui.
encore autre chose,
d'une autre manière,
comme l'écriture d'une autre manière.
Oui, bien sûr. Oui. C'est ça. Une richesse supplémentaire.
Oui. C'est bizarre parce que avant je chantais beaucoup plus que je jouais et puis maintenant je deviens plus comédienne. Mais je peux pas m'empêcher de mettre du chant dedans. Dans papier-ciseau aussi, j'en mets. Là, dans le prochain spectacle de Groenland, j'en mets aussi.
Mais vous aviez même chanté, mais c'était pas prévu parce que je crois dans le cadre des journées du matrimoine, ça sert comme ça. En italien.
Oui, c'était pas prévu aussi.
C'était parce que les personnes ne pouvaient pas être là et donc vous avez poussé la chansonnette, si on peut dire.
Voilà. Mais c'est plus compliqué d'ailleurs pour moi maintenant, hors contexte comme ça, simplement chanter une chanson.
Je me doute, oui.
C'est plus difficile de passer par un endroit du personnage qui va chanter.
D'accord. Donc, si vous voulez aller découvrir Olga, il reste peut-être quelques places ce soir à la Cave Poésie, mais il faut vraiment que vous en pressiez de téléphoner au 05 61 23 62 00.
Super.
Parce que voilà, il y a très de place,
ouais,
si j'ai bien compris.
Reste.
Voilà. Et sinon.
Le 22 novembre, donc soirée de soutien à la petite, ça se passe à la MJC du Pont des Demoiselles. Il y a une très belle salle.
Allez,
il y a un
demoiselles.
Gradin. Non, c'est avenue
Saint-Exupéry. Ah, oui, c'est vrai, oui.
Pardon. Après le Pont des Demoiselles.
Oui, c'est la nouvelle, oui, d'accord.
C'est à 20h15. Pour réserver, il faut passer par l'association La Petite, mais il y a 200 places, donc ça devrait.
Ah oui, là, déjà, c'est plus loin, effectivement.
Et ensuite, je vais rejouer le 5 janvier au domaine du Pessac à Sainte-Gabelle, à Picarou, chez Michel Boivin. Et je vais jouer avec un collectif qui s'appelle Tout un Monde, qui est un collectif de 11 compagnies.
Oui.
On va jouer en février à l'Espace Bonnefoy, le 14 et le 15 février.
Ah, c'est en février, cette année.
Oui.
D'accord.
C'était en février aussi, la dernière fois.
Il y a deux, je me souviens. Ouais. D'accord. C'est tous les deux ans, un festival qui a lieu tous les deux ans.
Oui. Et donc, il y a 11 compagnies
qui
présentent leur spectacle sur deux jours.
Mm-hmm. Chaque spectacle est joué deux fois.
Oui, sauf moi,
ah bon,
parce qu'en fait, on va présenter une fois le spectacle de Groenland Paradise, une poignée d'étoiles.
Et
le lendemain, celui qui va se passer en Syrie.
D'accord.
Et moi, le lendemain, je présente Olga.
D'accord.
Donc, en fait, on s'est partagé le créneau.
Et celui sur la Syrie, vous êtes aussi avec Nathalie Howell, c'est ça?
Oui, on est toutes les deux sur le plateau encore.
Mais
ça va être très très beau, venez voir, ça va être magnifique.
Ce matin, en préparant plus ou moins mes questions, je me suis dit qu'en fait, elle est aussi exubérante que vous.
Oui.
Et que c'est très bien, en fait, que c'est pas un hasard si vous vous êtes rencontrés, si vous avez créé un spectacle ensemble.
C'est assez incroyable. On a une façon de travailler très proche et on a deux univers
différents,
qui sont très complémentaires.
Oui, oui.
Très complémentaires. Mmh. Elle a un foisonnement plastique, c'est plasticienne.
C'est le moins qu'on puisse dire.
C'est vraiment. Elle a une conception de la scénographie, de la matière, du décor, du costume, de l'objet. On travaille beaucoup avec les objets. Et moi, j'amène la langue, le chant et on travaille très très bien ensemble, on adore. Ça va aussi vite dans nos cerveaux que l'autre. Et c'est marrant parce que là, donc Olga, c'est très dépouillé, j'ai juste une chaise et un costume. Et par contre, dans la création, donc une poignée d'étoiles de
Groenland
Paradise, on va remplir le plateau d'objets.
Comme sait faire Nathalie.
Comme sait très bien faire Nathalie.
Oui.
Voilà, donc c'est drôle de passer de l'un à l'autre. Mais il y a quelque chose de commun finalement aussi dans comment raconter une histoire, comment se questionner par rapport au théâtre, à quel endroit on se met dans le jeu et sortir du jeu et re-rentrer dans le jeu. Voilà, on joue beaucoup avec ça aussi avec Nathalie.
D'accord. Je vous remercie. C'est très gentil d'être venu à l'endemain de première.
Merci à vous.
À
bonne
bientôt.
Journée. Au revoir.
Et donc là, nous restons à la CAF Poésie, mais nous allons accueillir deux accordéonistes qui sont quelque part dans la radio. Voilà. Afin de présenter les 24 heures de l'accordéon qui auront lieu ce week-end, du samedi 10 novembre 18h au dimanche 11 novembre à 18h. Donc, je les invite à me rejoindre, si on peut dire. Merci à toi.